Matthieu chapitre 3 et le verset 11. C'est la parole de Jean-Baptiste qui dit « Moi je vous baptise dans l'eau en vue de la repentance, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Je ne mérite pas de porter ses sandales. Lui vous baptisera d'Esprit Saint et de feu. » Nous lisons dans Luc 3:16, Luc chapitre 3 verset 16, également Jean-Baptiste. Il leur répondit à tous, « Moi, je vous baptise d'eau, mais il vient. Celui qui est plus puissant que moi, je ne mérite pas de délier la courroie de ses sandales. Lui, il vous baptisera d'Esprit Saint et de feu. » Et encore, acte 2, il ne fallait quand même pas oublier ce texte pour ce matin. Acte 2, « Le jour de la Pentecôte, lorsque ce jour fut arrivé, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit. » Comme celui d'un souffle violent qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues qui semblaient de feu et qui se séparaient les unes des autres leur apparurent et elles se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Amen. Ces textes d'introduction pour notre méditation de ce matin. Nous savons que le peuple d'Israël se retrouvait pour les fêtes du printemps, à deux grands moments importants, à Pâques et à Pentecôte, séparés de 50 jours comme nous le savons. À Pâques, on se souvenait de la délivrance de l'ennemi puissant qui était Pharaon et l'Égypte. Ils ont été délivrés et ça a été commémoré bien sûr par la Pâque qui encore aujourd'hui est fêtée par le peuple juif partout dans le monde. Et 50 jours plus tard, il y avait cette fête de Shavuot, donc la fête des moissons ou des semaines, la moisson était mûre et il y avait cette moisson spirituelle qui a été engrangée ce jour de Pentecôte lorsque Jésus, qui est ressuscité le jour de Pâques et qui va donc 50 jours plus tard envoyer son esprit, c'est à ce moment-là qu'il y a cette première moisson, l'Église va naître et les 3 000 premiers chrétiens vont constituer cette église, cette première église. Le Saint-Esprit est descendu sur les 120 d'abord qui étaient dans la chambre haute et qui attendaient, qui priaient, qui étaient dans l'unité et qui attendaient sa promesse. Dieu donne toujours sa promesse à ceux qui attendent quelque chose. Si vous n'attendez rien, vous pouvez éventuellement être surpris parce que Dieu est tellement grand et tellement bon qu'il veut même toucher ceux qui ne s'attendent à rien du tout. Il est beaucoup plus grand que nous. Il n'y a pas que ceux qui prient instamment qui vont recevoir. Mais la grâce de Dieu est comme un fleuve qui déborde et qui touche tout. Même ceux qui peut-être ne sont pas du tout en forme ou ne s'attendent à rien. Mais nous devons considérer le don du Saint-Esprit comme étant un cadeau extraordinaire. Nous pouvons être touchés, mais lorsque nous considérons la présence de Dieu et le Saint-Esprit comme un don, comme un cadeau inestimable, de grand prix, quelque chose que nous allons chérir et dont nous allons prendre soin, alors vous allez grandir. Vous pouvez être touché si ça ne vous fait rien, si vous considérez ça comme chose commune et pas plus qu'une autre chose, vous allez être touché, mais ça va s'arrêter là. Tandis que si vous considérez comme un cadeau, comme un don, comme cette promesse extraordinaire dont parle le Seigneur, alors vous allez grandir dans ce don et vous allez bien sûr, être transformé. Quand je pense aux disciples, quand je pense à quel niveau ils étaient à la veille de Pentecôte, quand je pense comment le Seigneur a réussi l'impossible avec eux, je me dis, s'il a réussi avec eux, il peut réussir avec nous. Regardez dans l'évangile de Marc, il nous est vraiment dit à la fin de l'évangile dans quel état étaient les disciples. Marc 16, verset 9, Jésus était ressuscité le matin du premier jour de la semaine, il apparut d'abord à Marie Madeleine, de laquelle il avait chassé 7 démons. Elle allait emporter la nouvelle à ceux qui avaient été avec lui et qui menaient le deuil en pleurant. Quand ils entendirent qu'il vivait et qu'elle l'avait vu, ils ne la crurent pas. Après cela, il se montra sous une autre forme à deux d'entre eux qui s'étaient en chemin et qui se rendaient à la campagne. Ils revinrent eux aussi l'annoncer aux autres qui ne les crurent pas non plus. Vous voyez dans quel état ils étaient. Enfin, il se montra aux 11 pendant qu'ils étaient à table et il leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qui l'avaient vu ressusciter. On pourrait se dire, mais Seigneur, tu aurais quand même mieux fait de choisir d'autres que ceux-là. Tu as investi pendant 3 ans et voilà où ils en sont. Ils ne croient pas non plus. Ils sont par terre. Leur foi est vraiment tellement basse, malgré tout ce que Jésus a fait, tout ce que Jésus a dit, tout ce qu'il leur avait dit à l'avance. Puis il leur dit quand même, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, celui qui ne croira pas sera condamné. Et puis vient, c'est là que vient juste après, le Saint-Esprit à Pentecôte. Et ses disciples tellement déstabilisés, tellement au bout du rouleau, dans l'incompréhension de leur esprit qui ne s'ouvrait pas. Ils vont vivre l'effusion du Saint-Esprit et tout va changer à ce moment-là. Voyez-vous, l'homme naturel ne reçoit pas les choses de l'Esprit. C'est l'homme spirituel qui reçoit les choses de l'Esprit, qui les comprend, qui les saisit. C'est pourquoi notre être spirituel doit être allumé, doit être mis en marche. Notre être spirituel doit être nourri par la parole, par les cultes, par la présence de Dieu, par la prière. Elle doit être alimentée pour que nous puissions saisir et recevoir les choses spirituelles. Les disciples à ce moment-là n'étaient pas encore à ce niveau. C'est le Saint-Esprit qui va faire la différence. Nous allons parler maintenant de ces 3 textes dont j'ai fait allusion tout à l'heure, où il est dit que le Seigneur baptise du Saint-Esprit et de feu. Et de feu. Vous savez qu'il y a plusieurs symboles du Saint-Esprit dans les Écritures qui sont mentionnés un peu par-ci, par-là. Dans l'Ancien et le Nouveau Testament, il y a ce souffle puissant, il y a ce vent de Dieu, ce rouard, ce déplacement d'air, il y a quelque chose dans l'air, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Ce vent est une image du Saint-Esprit. La pluie est une image du Saint-Esprit. L'eau vive est une image du Saint-Esprit. L'huile est une image du Saint-Esprit. Mais aussi le feu est une image du Saint-Esprit. Alors que lorsque nous parlons du baptême du Saint-Esprit, nous parlons de la présence d'une personne. Nous parlons d'une personne. Le Saint-Esprit, c'est la 3e personne de la divinité. C'est la personne de Dieu, c'est le consolateur, c'est ton aide, c'est celui qui t'encourage, c'est celui qui te rassure, celui qui t'enseigne, celui qui révèle Jésus. C'est quelqu'un. Et on aime l'intimité avec quelqu'un, n'est-ce pas? On aime l'intimité avec le cher Saint-Esprit que j'aime, que nous aimons. Mais lorsque Jésus dit, ou lorsque Jean-Baptiste va dire, il vous baptisera du Saint-Esprit, alors je suis à l'aise puisque je vais être plongé dans cette intimité avec le Saint-Esprit. Je vais être plongé dans sa présence et dans sa plénitude et sa puissance. Mais, et de feu, ça ne me parle plus d'une personne, ça. Ça me parle de quelque chose de quoi j'ai plutôt envie de m'éloigner, n'est-ce pas? On dit aux enfants, éloigne-toi du feu, ne touche pas. Bien sûr, on le sait. Et pourtant, ici, il faut approcher le feu. C'est quand même un peu contradictoire. Naturellement, on s'en éloigne et ici, il est dit que le Seigneur vient nous baptiser de feu. Est-ce que c'est quelque chose contre nature? Est-ce que c'est quelque chose de particulier? Parce que le feu fait penser à une combustion, à quelque chose de dangereux, une énergie difficile à contrôler, à une puissance, une chaleur. Et pourtant, c'est comme si on aimait jouer avec le feu. On dit, ne joue pas avec le feu. Et pourtant, il y a tellement d'expressions où il y a le feu dedans. Regardez, avoir le feu, qu'est-ce que ça veut dire? Être enthousiaste, bavard, motivé, je ne sais pas. Être tout feu, tout flamme. Avoir un tempérament de feu. Je ne sais pas s'il y en a qui ont ça ici et qui sont reconnus pour avoir un tempérament de feu. Avoir un discours enflammé. Être dans le feu de l'action. Et puis si on s'approche de la parole de Dieu, l'amour est comme un feu. Hein, cantique des cantiques. Le coup de foudre, n'est-ce pas? C'est aussi du feu. L'amour, déclarer sa flamme. Et puis, il y a le contraire aussi, il n'y a pas le feu au lac. C'est aussi une expression où on parle de l'anti-feu. Alors, lorsque vous écoutez un peu des sermons à droite à gauche aussi, je sais que beaucoup surfent sur Internet pour chercher des messages, des prédications, et vous avez aussi participé à des rencontres différentes où cette notion de feu apparaît. Elle apparaît pour justifier une certaine agitation. Il faut que ça bouge. Si le Saint-Esprit est là, il faut que ça se voit. Il faut que ça remue. Il faut que, sinon, on est un peu déçu. On est venu pour que ça chauffe le feu. Hein? Et puis, Vous avez déjà entendu ces prédicateurs qui crient « Fire, fire !» Alors je ne le fais pas ce matin, je l'ai fait juste pour la rigolade. Et puis les gens sont comme un peu hypnotisés par ce genre de discours et de proclamation du verbe et de la puissance vocale dans le « fire » pour littéralement manipuler les foules. Littéralement, c'est de la manipulation dans pas mal de situations. On veut en effet activer quelque chose, on veut allumer quelque chose, on voudrait mettre l'étincelle aux poudres. On voudrait que le Saint-Esprit agisse enfin et on veut lui commander comment il doit faire. Ça, c'est de la manipulation qui touche le domaine émotionnel et spirituel, qui sont parfois très proches. Et cela, dans cette compréhension de ce feu, c'est surtout parce que je veux ressentir le feu, je veux me sentir bien. On veut sentir quelque chose d'agréable, n'est-ce pas? Ça caresse tellement notre chair. On veut se sentir bien dans le feu. Et mes amis, le jour où le feu vraiment est proche de vous, vous allez me redire si vous allez vous sentir bien. Si vous avez froid et que vous êtes près d'une belle cheminée, oui, vous allez vous sentir bien, mais à part ça. Et je me suis dit, regardons un peu les Écritures pour voir quel est l'effet du feu vraiment dans la Bible. Est-ce que c'est vraiment pour nous faire du bien? Ressentir beaucoup de choses agréables, activer le Saint-Esprit, comme on dit, par des slogans, par des actions de manipulation également. Alors je n'enlève rien de certaines onctions véritables, mais il faut toujours voir le lendemain de ces onctions. Le lendemain de ces onctions. Est-ce que cela produit quelque chose qui retombe? Parce qu'il y a parfois dans la foule, il y a comme une atmosphère de foi et on peut saisir et recevoir des choses. Mais quand on sort, il faut garder la foi. Lundi matin, il faut avoir la foi de ce que j'ai vécu le dimanche, que je ne puisse pas perdre ni me laisser voler ces choses, mais que je les garde, que je grandisse dedans et que je puisse finalement vivre la victoire dans ma vie personnelle et non seulement lorsque tout le monde est ensemble et qu'il y a une atmosphère. La première chose qui me frappe dans le feu dans la Bible et dans sa compréhension normale, simple à comprendre, c'est que ce n'est pas quelque chose d'agréable, mais que le feu s'attaque à tout objet dans sa totalité et sa profondeur. Lorsque le feu consume, il ne va pas consumer juste en surface, mais il va pénétrer pour consumer tout. Si on met le feu dans quelque chose, on est parfois étonné dans les incendies de bâtiments de voir, mais comment est-ce possible que tout ça, ça a brûlé? Comment est-ce possible que même le béton et tout ça, ça a été détruit par le feu alors que ça devrait résister au feu. Le feu fait les choses en profondeur dans la totalité. Il pénètre avec une puissance incroyable jusqu'au tréfonds. C'est pour cela qu'il est dit, par exemple, dans Malachie, chapitre 3. Et c'est intéressant ce texte parce qu'il est justement en référence avec Jean-Baptiste qui a dit cette parole. Celui qui vient après moi baptisera du Saint-Esprit et de feu. Et lui va dire, le prophète Malachie va dire plusieurs, 200-300 ans avant l'arrivée de Jean-Baptiste, « Voici, j'enverrai mon messager, il va préparer le chemin devant moi, soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez et le messager de l'Alliance que vous désirez, voici il vient, l'Éternel des armées. Qui pourra soutenir le jour de sa venue? Qui restera debout quand il paraîtra? Car il sera comme le feu du fondeur. » C'est de là que vient le chant feu du fondeur d'ailleurs. Comme la potasse des foulons, il s'asseyera, il fondra, il purifiera l'argent, il purifiera les fils de Lévi, il les épure comme on épure l'or et l'argent. Ils présenteront à l'Éternel des offrandes avec justice. Donc le feu est capable de toucher les métaux les plus durs. Vous pouvez toujours frotter de l'or, vous n'arriverez jamais à le purifier. Vous pouvez prendre quelque chose un métal précieux, puisque c'est l'image biblique, nous allons l'utiliser. Pour purifier un métal précieux, il n'y a pas d'autre chemin que de le passer par le feu. Il faut qu'il soit littéralement dissous, et il faut qu'il soit ramolli, il faut qu'il devienne liquide, et que là, les impuretés soient extraites. C'est la métallurgie des métaux précieux et d'autres métaux, bien sûr. Donc le feu va s'attaquer par définition, à quelque chose qui est ancré en nous et qui a de la peine à sortir. Le feu de Dieu va s'attaquer au péché qui est enfui dans notre cœur et qui ne s'en va pas. C'est pour ça que le Saint-Esprit, quand il vient, il va convaincre de péché. D'abord, il va te montrer, il y a au fond, un problème, il y a un péché que tu aimerais bien cacher, ou tu as honte de ça, mais le Saint-Esprit le voit et il met le doigt dessus. Et le feu de Dieu, donc l'action du Seigneur, la mise en mouvement de l'action et de la puissance de Dieu va résoudre le problème. Va non seulement gratter en surface pour que tu te sentes un peu mieux et qu'après tu recommences, mais il veut extraire par une opération de feu le mal définitivement. Alléluia. Définitivement. Donc le feu de Dieu ne peut pas cohabiter avec le péché. Alors écoutez, la parole de Dieu dit, celui qui est né de Dieu ne pêche pas. Alors je vais dire, mais oh là là, mais moi je pêche. Nous pouvons tomber, trébucher dans le péché, si nous ne sommes pas attentifs, si nous sommes un peu loin du Seigneur, si nous sommes nous laissés saisir par la séduction, etc., etc. Mais il est dit clairement dans cette parole, celui qui est né de Dieu ne pratique pas le péché sur une base régulière. Si vous avez un péché, et vous savez très bien que Dieu n'est pas d'accord avec ça, et que vous persistez à le faire, et que vous êtes à l'aise avec ça, vous n'avez pas le Saint-Esprit en vous. Il est peut-être autour de vous, mais il n'est pas en vous réellement. Il y a quelque chose qui ne va pas au niveau de la nouvelle naissance. Si vous êtes à l'aise en péchant sur une base régulière, et que ça ne vous fait rien, ni chaud ni froid, il y a un vrai problème. Et le feu de Dieu est justement là pour attaquer ce point. Parce que sans la sanctification, vous n'entrerez pas dans le lieu très saint qui est le ciel. Sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. C'est pour ça que le feu, il a une dimension, non pas, c'est exactement le contraire du bien-être, de sentir des choses agréables. Il s'attaque à des choses indispensables pour que tu sois prêt pour le ciel, pour que tu puisses y entrer. Donc être à l'aise avec le péché, ce n'est pas possible si on est rempli du Saint-Esprit. Dans certains appels, dans certaines campagnes d'évangélisation, j'ai vu des gens apporter des choses devant, des choses qu'ils avaient volées. Pourquoi ? Certains le disaient de cette manière. Ça me brûlait les mains. Ça me brûlait. Une fois dans une campagne d'évangélisation, quelqu'un a commencé à enlever un pull. Et la personne a dit, mais attends, arrête, tu vas pas faire scandale ici. Elle a dit, mais je vais m'arrêter là, rassurez-vous, mais c'est un pull que j'ai volé. Il me brûle sur la peau. Ça, c'est le feu. Vous ne pouvez pas cohabiter avec le péché et le mal. Si vous avez des choses interdites dans votre maison et que ça vous fait ni chaud ni froid, il y a un problème. Par contre, si ça devrait brûler, c'est ça l'action de Pentecôte. L'action du feu, c'est que ça brûle. Ce n'est pas cohabitable, ce n'est pas à mettre ensemble avec la sainteté de la puissance de Dieu. Et maintenant, encore autre chose. Le feu, il nous fait réagir face au mal. Vous savez, lorsque David, le petit David, est arrivé sur le champ de bataille et qu'il voyait Goliath qui défiait toute l'armée d'Israël, il ne s'est pas pris pour quelqu'un en disant « moi je vais défier cet homme ». La première chose qu'il va dire, mais qui est cet homme qui est en train de déshonorer Dieu là, le Dieu d'Israël ? Qui est-il ? Il y avait cette onction du Saint-Esprit, ce feu en lui, qui le faisait bouillir de colère divine contre la victoire du diable. Mes amis, lorsque le diable prend des victoires, notre cœur en feu réagit. Lorsque vous êtes confronté au mal, il y a quelque chose qui réagit. Nous ne pouvons pas accepter le mal. Il y a quelque chose, l'injustice dans le monde, ça me touche, même si ça se passe à l'autre bout du monde. L'onction faisait bouillir David et qui a dit, mais qui est cette personne qui défie, qui déshonore Dieu comme ça? Cette onction de feu le faisait se lever et agir avec la fronde et détruire cet ennemi Goliath. Le mal autour de nous ne doit pas nous faire rire. Ce n'est pas des blagues. Ça doit nous faire réagir. Je n'ai pas de solution pour le mal, pour beaucoup de choses. Mais mon cœur réagit. Et je sais que beaucoup d'entre vous aussi. Parce que vous voyez, le mal dans nos quartiers, le mal autour de nous, ça nous fait réagir. Parfois, on est affligé de tristesse. Mais quelque chose se passe face au mal. On ne peut pas cohabiter avec ces choses qui déshonorent Dieu. Pas possible. Vous ne devez jamais être à l'aise avec des choses qui déshonorent Dieu. Ni ce que vous regardez sur Internet, ce que vous regardez sur votre télévision, ou ce que vous êtes, en quelle compagnie vous vous tenez, il faut regarder cela. Seigneur, brûle ce qui n'est pas conforme à ta volonté. C'est pourquoi le feu purificateur nous parle de la sanctification. Nous devons aimer la sanctification. Ce n'est pas un message qui nous écrase, c'est un message purificateur indispensable à la sanctification et la transformation. C'est-à-dire que le feu de Dieu en moi, il me dit, mais je veux ressembler au modèle parfait, à la pureté totale. Je veux ressembler davantage à Jésus. Est-ce que c'est une prière que tu as fait récemment? J'aimerais ressembler davantage à Jésus. J'aimerais davantage être comme lui, davantage prendre exemple sur lui. Et lorsque je lis les textes sur Jésus, lorsque je lis les évangiles, eh bien, je suis littéralement aspiré vers cette pureté, aspiré vers cette beauté, cette perfection. Ça m'attire. Il y a un grand désir en nous d'être transformé. Ce feu, donc, réserve quelque chose qui est, c'est quelque chose d'entier, quelque chose de total et de, qui va en profondeur, qui consume tout. Et je vois Jésus qui était littéralement aussi consumé par ce feu. Car Jésus disait oui à la volonté de Dieu envers et contre tout. Il va dire même au jardin de Gethsémané, au plus difficile des décisions qu'il a eu à prendre, il a dit non pas ma volonté mais la tienne, Père. Ce oui à Dieu, ça vient du feu de Dieu. Le oui à Dieu vient du feu de Dieu. Est-ce que nous disons oui à Dieu pour tout? Jésus était lié à son Père, il faisait la volonté du Père et parfois il est dit, il fallait qu'il passe par là, il fallait qu'il fasse ceci. Parce qu'il était habité par la volonté du Père, il ne voulait pas faire autre chose. Ce oui de l'obéissance provient du oui au feu de Dieu. Le feu de Dieu met cette obéissance en nous, génère cette obéissance, génère cette profondeur d'obéissance et pas partielle. Et puis encore, ce feu de Dieu qui va en profondeur, qui va dans la totalité, qui nous saisit. Il y a des textes étonnants dans la parole de Dieu. Il est dit que Dieu est comme un feu dévorant. On aime l'amour de Dieu, on aime la compassion de Dieu, on aime la restauration du Seigneur. Et tellement on aime les attributs positifs de Dieu, il y en a beaucoup. Mais notre Dieu est aussi un feu dévorant. C'est-à-dire que dans sa présence, nous sommes consumés. Dans sa présence, l'impureté ne peut subsister un seul instant. Et cette conception, cette révélation de Dieu comme un feu dévorant inspire en moi la crainte. Le feu de Dieu inspire en toi la crainte de Dieu. Inspire en toi la crainte de Dieu. Non pas que nous devons paniquer devant Dieu, avoir peur, être pétrifiés de terreur, non. Mais ce profond respect de Dieu, ce profond respect de Dieu vient par le feu de Dieu. Dieu est aussi un feu dévorant. On ne peut pas négliger ces textes, ils existent. Deuxièmement, donc le feu a d'abord une action entière, totale, et non pas superficielle. Deuxièmement, l'action du feu est permanente et constante. C'est-à-dire, ce n'est pas un feu de paille. Dans Exode chapitre 3, Moïse va s'approcher et il va avoir la première révélation de Dieu qui est le buisson ardent, qui était un buisson tout simple. Et ça existait dans le désert, semble-t-il, que d'une manière spontané, des buissons, sous l'effet de la chaleur et sous l'effet des dégagements de certaines essences, ils s'auto-enflamment comme cela. Mais le buisson ardent n'était pas comme ça, il brûlait sans se consumer. Il restait en feu et ne se détruisait pas. C'était là la révélation de Dieu. Et lorsqu'on met en parallèle avec le tabernacle dans le désert et puis le temple après à Jérusalem, Dieu avait dit à plusieurs reprises, il faut toujours qu'il y ait du feu dans l'autel. Le feu ne doit jamais s'arrêter. Et les lampes du chandelier ne devaient jamais s'éteindre. Et cela nous fait penser à Matthieu 25 où les servantes et les vierges qui entouraient la mariée devaient avoir de l'huile en permanence dans leurs lampes. Leurs lampes étaient allumées. Et certaines avaient les lampes éteintes et ne pouvaient plus les rallumer. Donc le message c'est, il faut que le feu brûle en permanence. Et je terminerai tout à l'heure mon message par une image qui va vous aider à rallumer vos lampes. Rallumer vos lampes. Le feu donc devait brûler en permanence. Et puis, lorsqu'on revient sur le texte du départ, qui sont dans Matthieu et dans Luc, à chaque fois où Jean-Baptiste va dire « Il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu », il va ajouter quelque chose. Prenons juste Matthieu 3, 11. Et relisons encore une fois ce qui est dit juste après. Je lis le verset 12. Il a son vent à la main, il nettoiera son air, il amassera son blé dans le grenier, mais il brûlera la faille dans un feu qui ne s'éteint pas. » Le même texte apparaît dans Luc. Par contre, dans les autres textes, dans Marc et dans Jean, où il est question aussi du baptême du Saint-Esprit, il vous baptisera du Saint-Esprit, il n'est pas question du feu, il n'est pas non plus question de ce texte-là qui parle du jugement. Donc cela nous montre qu'il y a un jugement, il y a un lieu où le feu ne s'éteint pas, effectivement. Nous n'aimons pas trop prendre connaissance de ça, pourtant ça fait partie de la Bible aussi. Il y a un lieu qui s'appelle la perdition, qui s'appelle l'enfer, et Jésus, attention, Jésus en a parlé à bien des reprises. Et il l'a taxé comme étant un lieu où le ver ne meurt pas, où le feu ne s'éteint pas. Il y a une permanence de feu dans le jugement. Mais ce n'est pas de ce feu de jugement que nous allons être envahis. C'est du feu purificateur, mais il faut que le feu brûle en permanence. Il faut que ce matin, ce jour de Pentecôte, nous puissions dire, est-ce qu'il y a encore une brindille de feu? Est-ce qu'il y a encore quelque chose qui brûle en moi? Non pas des émotions seulement, parce que même s'il y a, nous allons en parler, il y a également la notion de la passion dans le feu. Il y a la notion de la passion. Mais ici, il est question de ce feu qui est constant, et l'image du jugement est aussi ajoutée à cela. Après avoir parlé du côté fort, profond, purificateur, sanctification et besoin de repentance pour le péché qui ne peut cohabiter avec le feu, qui est aussi parfois la notion de la souffrance est dans le feu. Ça fait mal, une brûlure. Ça fait très mal et c'est une douleur permanente. Vous réveillez la nuit, vous avez été soigné, mais ça fait toujours mal. La souffrance de la brûlure est là. Mais maintenant, basculons un peu dans le côté plus beau et plus encourageant, qui fait aussi partie de l'autre, de la facette du feu, qui est cette passion. Le feu me fait aimer Jésus. Et c'est là qu'on a aussi, c'est vrai qu'on l'amour est comme une passion, c'est comme un feu, c'est... Quand on aime, c'est un feu, on ne peut pas l'expliquer autrement, c'est une belle image. Et il est dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, toute ta pensée. Il faut que cette passion reste intacte, alléluia. Il faut que cette soif de sa présence reste intacte. Et le Seigneur va dire aux sept églises de l'Apocalypse, depuis la première en particulier, et la dernière, il va dire, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as perdu le premier amour. Et la dernière, il va dire, ne sois pas tiède, car les tièdes, je les vomirai de ma bouche. Il faut que le feu de ta passion reste intact. Le Saint-Esprit est là pour maintenir la flamme de l'amour pour Dieu. Il est capable de te donner ce qui te manque. Lorsque tu arrives au bout de tes ressources, eh bien le feu vient. Et lorsque tu t'approches du Seigneur, tu as toujours accès à une source brûlante. Le Seigneur te communique son feu à lui. Alléluia. Ce feu aussi, cette passion, c'est une passion pour le témoignage. Pour le témoignage pour Jésus. Le feu de l'Esprit te gardera en mouvement. Témoignez pour Jésus. Pourquoi ? Parce que lorsque je prends connaissance de la perdition dont j'ai parlé courtement, lorsque je prends conscience qu'il y a un feu éternel qui ne s'éteint jamais, je ne peux pas rester indifférent en sachant que des gens vont aller dans ce feu. Et surtout des membres de ma famille que j'aime, ce n'est pas possible. Je dois faire quelque chose. Je ne peux pas rester les bras croisés en disant « c'est leur choix ». Je dois investir quelque chose dans la prière, même dans le jeûne. Je dois jamais me relâcher parce que je ne veux pas qu'ils aillent dans ce lieu de perdition. C'est vrai qu'on n'a pas vraiment la notion du feu tant qu'on n'a pas été confronté vraiment avec le feu. Ceux qui ont été confrontés avec un incendie le savent. Moi, j'étais témoin, en tout cas, je n'étais pas à la maison lorsque toute la maison a brûlé de mes parents. C'était en 1987. Je vous ai raconté ça, que ça coïncidait avec notre arrivée dans le ministère en Suisse, au mois d'octobre, le 3 octobre 1987. Nous arrivions le soir, et le lendemain, dans la nuit, toute la maison de mes parents brûlait, et on n'a jamais su pourquoi. Cet incendie a laissé des traces vraiment incroyables. Pendant de nombreuses années, je ne vais pas être trop dans le détail, ma mère ne pouvait plus écrire d'une manière droite, mon père a perdu du poids, c'était vraiment un traumatisme incroyable d'être réveillé en pleine nuit, et que les flammes sortaient de partout dans la maison, la toiture explosait, etc. etc. Le feu qui a détruit la ferme de mes parents pendant 3 jours, etc. C'est une vraie perte, c'est quelque chose... Quand vous voyez que tout ce que vous aviez est perdu dans les flammes, c'est juste terrible. C'est terrible. Mais lorsque nous voyons que des gens partent en enfer. Ils vont tout perdre. Alors que nous disons toujours, vous êtes précieux, un enfant est précieux, une vie est précieuse, c'est une valeur infinie. Et ces valeurs infinies vont terminer dans le feu. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole, et pas seulement une fois. Jésus l'a dit souvent, je ne peux pas juste rien faire. Seigneur, j'ai besoin qu'un feu vienne en moi pour que je puisse faire quelque chose. Alors je ne veux pas que vous ne soyons culpabilisés parce que vous allez courir tout à l'heure dans toutes les rues de Genève pour témoigner aux uns et aux autres. Faites ça dans le repos du cœur, mais s'il vous plaît, faites quelque chose. Faisons quelque chose. Faisons quelque chose. Le feu nous maintient en continuité dans le témoignage. En continuité dans le témoignage. C'est bien d'avoir été très au top dans le témoignage il y a 20 ans, mais aujourd'hui vous dites, oh, je laisse ça aux autres, c'est plus mon dada, c'était autrefois quelque chose que j'aimais faire. Il faut que la passion des âmes soit toujours là, quel que soit votre âge. J'ai aimé, dans les contacts avec le pasteur Hunziker, que j'ai eu la chance de connaître quelques années, eh bien lui, à 90 ans, il était assis dans son parc là-bas, au parc de la Roseraie, et il est venu me trouver et me dit, est-ce que tu n'aurais pas une Bible en japonais? Parce que j'ai pu parler à une personne qui parlait japonais, et j'ai pu parler un petit peu en anglais, et j'avais pas de Bible en japonais. À 90 ans, il témoignait sur un banc public, en s'asseyant à côté de quelqu'un, comme ça, à l'inconnu. Cette passion ne doit jamais nous quitter. Ce matin, si la passion pour le témoignage t'a quitté, tu as été peut-être justement blessé, tu as été rejeté, on ne t'a pas écouté. C'est souvent ça qui nous arrête, c'est qu'on est intimidé par les attaques et par l'incapacité des gens de recevoir, par le manque de résultats. Ce matin, quelque chose va se rallumer. Alléluia. Quelque chose va se rallumer. Quelque chose va se faire. Quelque chose va se faire. Le pasteur Claude Stellin, dans les années 80, c'est-à-dire en 1982, avait un incendie dans son église. C'était un attentat. L'église de Villeurbanne avait été incendiée. Et lorsque les pompiers sont arrivés, bien sûr, personne ne rigolait, mais c'était très sérieux. Et à un moment donné, quand ils ont éteint le feu, le capitaine des pompiers a dit, en regardant, « Eh bien, c'est la première fois que je suis dans une église. » Et le pasteur Stellin a répondu, « Oui, c'est aussi la première fois qu'il y a le feu dans l'église. » Quand il y a le feu, les gens vont venir. Quand il y a une passion, ça va non seulement remuer votre cœur, mais ça va remuer aussi les autres. Quand vous n'avez pas le feu, ça va se sentir que c'est un pétard mouillé, je vais dire. Mais quand il y a vraiment une vraie passion, vous n'avez pas besoin de faire un genre, de copier quelqu'un qui a une manière de dire les choses. Soyez vous-même, mais le feu va passer. La passion va passer de toute façon. Ça va se voir, ça va se lire sur vos yeux, ça va se voir. Vous allez paraître authentique et non pas artificiel. La passion, c'est quelque chose d'authentique. Soyez vous-même, ne copiez personne et votre passion va, comme une étincelle, se propager vers quelqu'un d'autre. Alléluia. Le prophète Jérémie va dire, « Seigneur, j'en ai marre de parler. On n'écoute pas. Seigneur, on blasphème, on me tourne le dos. » Personne en Israël ne reçoit mes paroles. Je vais me taire. Et voici ce qu'il dit. La parole de l'Éternel est un sujet d'opprobre, une risée chaque jour. Je ne ferai plus mention de lui, je ne parlerai plus en son nom. C'est alors qu'il y a dans mon cœur comme un feu dévorant qui est renfermé dans mes os. Je m'efforce de le contenir, mais je ne peux pas. Ça, c'est le feu de Dieu. Tu rencontres des résistances et des réactions et tu es découragé. Mais il y a dans ton cœur, dans tes os, dans ton esprit, il y a un feu, tu ne peux pas te taire. Si eux ne veulent pas, eh bien, je vais vers d'autres. Et puis il y a cette grande passion pour aimer Dieu, pour le témoignage, mais aussi pour rechercher les dons spirituels. Mon frère, ma sœur, quand est-ce que pour la dernière fois tu as recherché les dons spirituels? Aspirez, ayez du zèle, ayez du feu pour chercher les dons spirituels. Aspirer aux dons les meilleurs. Ce n'est pas normal qu'il y ait seulement deux ou trois dons qui fonctionnent. Il faut qu'une multitude de dons fonctionnent dans l'Église et hors de l'Église. Cherchez les dons spirituels. Et je termine. L'image que je voudrais utiliser dans le nord de la France et dans la Belgique francophone, il y a ce qu'on appelle la veine du charbon, qui est de Mons, Charleroi, Liège, le Limbourg aussi un peu. Également dans le nord de la France, il y a la Lorraine, tout ça. Il y a des, il y a des puits, il y a donc du charbon, il y a des mines et il y a des aciéries, de l'acier. Et pour faire de l'acier, on construit d'abord un haut fourneau. C'est un four gigantesque, 20 mètres de hauteur. Je ne vais pas dans les détails, où on met du coke et du minerai de fer. Puis on met un feu, ça prend plusieurs jours pour allumer. Et puis ça chauffe et ça fait fondre le tout. Donc c'est plus de 1000, 1500 degrés, voire 2000 degrés. Ça fait fondre tout. Et avec ça, vous avez une coulée, l'acier, vous avez un liquide qui sort, qui va être traité dans les laminoirs à chaud, à froid, etc., etc. Et ce qui s'est passé avec les années, c'est que toute cette industrie lourde de l'acierie s'est arrêtée peu à peu. On a éteint les hauts fourneaux, les uns après les autres. Et je me souviens quand, je crois que c'était 2008, on a éteint le dernier haut fourneau qui était dans la région. Donc vous imaginez quelque chose qui a fonctionné en continu, il y avait le feu en continu, il y avait cette production d'acier en continu, et tout à coup, tout va se figer, tout va s'arrêter complètement, parce que bien, la production n'est plus concurrentielle, ce n'est plus possible de fonctionner de cette manière. Toute l'économie restait par terre, beaucoup d'emplois ont été perdus. Jusqu'au jour où, 2 ans plus tard, en 2010, un nouvel acheteur est arrivé. Un grand groupe international est arrivé qui a racheté tout ça. Et ils ont rallumé les fours les uns après les autres. Et toute la Syrie, en tout cas en beaucoup plus petit, en petit, a recommencé. Et la région a pu revivre parce qu'on a rallumé le four. Et c'était dans tous les journaux. Le haut fourneau, le dernier qui a été éteint, vous savez, c'était une tragédie pour la région au niveau économique. Tout comme lorsqu'on fermait les mines de charbon. Les ouvriers qui ressortaient le dernier jour, ils avaient les larmes qui coulaient. Ces hommes forts et solides qui étaient habitués à travailler toute la journée dans les profondeurs de la terre savaient que leur mine était fermée, c'était une tragédie. Leur travail était fini, leur cœur était attaché à ce travail et on fermait tout ça. Le four était éteint, le feu était éteint. Mais voilà que quelqu'un rachète. Je ne vais pas vous dire le groupe que c'était, ce n'est pas important, mais il y a un groupe précis qui a racheté tout ça et qui a rallumé le four, le haut fourneau, afin que la production puisse repartir. Ce matin, si tu as l'impression d'être comme un four éteint et tu as l'impression d'être un peu en faillite et qu'il n'y a personne qui arrive à rallumer tout ça, il y a quelqu'un qui a de la puissance, quelqu'un qui a de l'énergie, quelqu'un qui est un feu dévorant. Quelqu'un qui a une promesse, je te baptiserai du Saint-Esprit et de feu. Il y a quelqu'un qui a des moyens puissants pour rallumer ton four, pour rallumer ton cœur, afin que tu puisses à nouveau donner, que tu puisses donner, que tu puisses vraiment être ce que Dieu veut que tu sois. Alléluia. Ce matin, le Seigneur a quelque chose pour toi. Le feu, tu ne peux pas l'inventer, ce n'est pas en criant « fire, fire » que quelque chose va se passer dans le profond de ton cœur. C'est en venant en contact avec la source que tu vas recevoir ce feu et que tu vas pouvoir te laisser d'abord transformer en profondeur. Le feu, c'est quelque chose de total qui consume, mais en même quelque chose, c'est une passion que tu veux communiquer dans le nom de Jésus. Alléluia! Merci Seigneur. Et nous terminons la toute dernière pensée, la suivante. Revenons à la Bible, dans le temple, dans la tente de rencontre, dans le désert. Il y avait toujours le feu. Pourquoi? Parce qu'il y avait toujours un sacrifice sur l'autel. S'il y a quelque chose sur l'autel, le feu de Dieu va venir. S'il n'y a rien sur l'autel, il n'y a pas besoin de feu non plus. Ce matin, si tu veux recevoir le feu, il faut que tu te places sur l'autel de Dieu et que tu dis, Seigneur, me voici. Je m'offre à toi complètement. Je ne peux pas produire le feu. C'est toi qui le fais. Moi, je fais ma part. Seigneur, fais la tienne. Seigneur, moi, je me place sur l'autel, je m'abandonne, je me donne à toi. Et toi, Seigneur, tu descends avec ton feu et tu fais le reste. Je te fais confiance.